ma réponse. Alors, à côté de moi, on a parlé d'intelligence artificielle. Les autres s'y connaissent que on a une grosse méfiance autour des enceintes connectées. Parce qu'il est possible que les enceintes connectées y écoutent à nous tout le temps. C'est une grande crainte. Eh bien, figure-toi que là, aujourd'hui, nous avons une intelligence naturelle que tu ne bouges pas, que tu es dans son coin, mais elle n'a pas son temps pour écouter Azote. M'y présente Azote, Marie-Thiem Beaumorel, notre grand témoin.
Comme ça, là. Comme ça. D'accord, ok. Ok, plus proche encore. Bonjour, bonsoir. Hein? Bonsoir. L'intelligence, là, le coco, là, il tourne. Elle est fatiguée. C'est pour ça, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, elle m'y souffle à côté, là. M'y souffle et m'y souffre. Parce que m'a est fatiguée et en plus m'a étudié Azote toute la journée, m'a écouté Azote. Alors moi, qui ça m'il est Marie-Thiane Beaumorel. Tiens, beau lac, pas il dit en créole. Hein. Mais non, en vérité, c'est mon vrai nom, Thiane Beaumorel. Mon vrai nom, enfin, ça que l'état civil l'a décidé pour mon ancêtre. Qui ça m'il est un sociologue. Une sociologue, c'est quoi? Alors, un sociologue vient me dire que c'est un poil à gratter. Il m'y gratte bon peu et m'a gratte Azote. Ris pas tout de suite. On va voir que ça, il rit. Enfin. Alors, la sociologie, c'est quoi? La sociologie, c'est une science prédictive qui dit comment les choses vont arriver si certaines conditions sociales sont réunies. Un peu la météo, la société, quoi. Et la sociologie, c'est aussi une science critique. C'est une science, cette critique, comme un moucatage, quoi. C'est-à-dire, il vient interroger les évidences. Donc, Mala écoute Azote, là, depuis ce matin. Mala gratté là-bas, Azote, il vient voir. Alors, il trouve que les curieux d'inviter un sociologue, une sociologue aujourd'hui, les curieux, parce que ben, déjà, c'est un peu comme on prend le chabouk pour tapao, quoi. Hein? Et puis ensuite, parce que le sociologue, Bourdieu disait, il est là pour désenchanter le monde, c'est-à-dire pour révéler ce qui conditionne le monde, pourquoi les choses sont comme elles sont. Mais c'est quand même curieux d'inviter un sociologue pour faire exactement ce que le conte, enfin pour faire l'inverse de ce que le conte fait, quoi. Le conte est là pour enchanter le monde, réenchanter le monde, dire grâce au merveilleux ce que le monde est et doit être. Et le sociologue est là pour faire l'inverse. Alors, une fois que nous l'a dit tout ça, m'a fait un petit affaire, m'a écouté Azote et m'a recensé tous les mots qui revenaient régulièrement. Et on en a des outils pour analyser tout ce banc de mots-là. Mes outils, c'est aller regarder qui ça y dit quoi, comment. Alors, en préparation de cette séance, de cette longue séance, depuis ce matin-là, on avait un paquet de textes que Ranga la donne à main, là, où ça il est. Et m'a regardé tous les mots qui revenaient. Regarde les images derrière moi. Donc, les mots qui revenaient le plus souvent, c'était ben, le conte, avec on a passé une définition un peu tautologique. Comment est-ce, donc, c'est quoi le conte, hein? De quoi on parle quand on parle du conte? Mais le conte, c'est le conte. C'est tautologique, c'est-à-dire, hein, c'est à point de là que le conte, c'est un racontage, et quelle qualité de racontage? Eh bien, avant aujourd'hui, c'est-à-dire sur le papier, ça que l'avait transmis avant, ben, le conte, c'était une façon de dire, une façon de dire orale. Et de dire quoi? De dire notre identité, de dire notre culture, notre histoire. Mais en même temps, il y avait des petits paradoxes. Vous voyez les petites affaires écrites en petit là, hein, que m'y voit pas vraiment parce que m'y vieillit. Production littéraire, les lettres et le conte, l'oral, le verbe et l'écrit. C'est un petit peu, ou sans, un petit peu ambivalent quand même, hein, parce que nous parle que d'une pratique qu'il dit, puis en même temps, il écrit. Donc ça, il est ça. Et deuxième image, ça, c'est ce qui arrive après. C'est-à-dire, au terme de cette journée, les mots ne sont plus les mêmes pour dire le conte. Quels sont les mots qui ont été utilisés aujourd'hui pour dire ce que nous avions à dire collectivement? Alors, quand je dis ce que nous avions à dire collectivement, c'est en dehors du petit tour de table qu'elle a eu là, hein, parce que m'a fait ces images-là après. Donc ça, c'est un nuage de mots qui reprend donc les mots qu'on a dit. Les mots que l'ai écrit en plus gros, c'est les mots que l'a dit le plus. identité, créolisation, cosmant, tradition, légende, magie, racontage. Et puis, Nena, quand même, des petits mots qui arrivent, et m'y aimerait aller regarder, interroger ces petits mots-là. Force, puissance. Kosa a une chose, Kosa, il est un conte. Moi, je suis sociologue, une scientifique, et avant d'aller interroger un affaire, m'y aime bien définir à lui, parce que sinon, de quoi nous cause, nous ne connaît pas. Et finalement, moi, mon propos, il va être de débusquer les implicites. Quels ont été nos implicites, nos croyances partagées? On appelle ça du sens commun en sociologie. Donc, maintenant, je vais vous demander un petit affaire. Essaye de définir le conte avec aucun des mots que l'a écrit là. Essaye, vraiment, essaye de définir le conte avec aucun des mots que l'a écrit là. L'histoire était écrite dans la première image, pardon. Non, l'avait écrit aussi, qui est amazinage. Merci. Un détaquage la langue. Moi, j'aimerais... n'a qu'une personne, à mon sens, après il faudrait m'y écouter, après tout là, nos affaires là, la preuve, parce qu'un scientifique, il administrera la preuve aussi. N'a un monde que la donne une deux définitions du conte, que m'y aime bien à cause, parce que voilà, pas d'azote. Mais moi, mon objet préféré, l'objet que m'y étudie à La Réunion, c'est les inégalités. Là, m'y voit, n'a un peu le sourire, il te sent là, déjà, là, parce que Zot, il sent que ça donne azote. Là. Eh bien, Naïmoun, c'est M. Mullah que la donne deux définitions politiques du conte. Première définition du conte, le conte, c'est un témoignage maman, un témoignage mon ma tante, un témoignage ma sœur. Je vais analyser après la dimension politique de cette définition. Autre définition, le conte, c'est un histoire pour empêcher Marmaï ravager. Quel double sens il y a dans cette définition. Merci, M. Mullah. Je vais vous citer, hein, mais quelle belle définition. Pourquoi? Parce que maintenant, allons regarder du côté de, un, des enjeux qu'il y a derrière ces définitions et des effets sociaux qui se cachent, embusqués derrière ces définitions. Témoignage, notre moment. Témoignage. Effectivement, le conte, et ce n'est pas anodin, il remplit un certain nombre de fonctions sociales. Et il y a plusieurs témoins. J'aime pas qu'on m'appelle un grand témoin, parce que déjà, je n'aime pas le boune les grands. Je n'aime pas les grands affaires, non. Nous, toutes légales. Ah, même c'est un militant l'égalité. N'a point plus, n'a point moins. Et c'est celles qui ont parlé de cette fonction sociale du conte qui était de... La première fonction du conte, c'est de raconter l'inimaginable. Raconter la souffrance des femmes, le quotidien des femmes. Le conte, finalement, il fait quelque chose de très pervers. Il euphémise le quotidien violent des femmes. Et ce n'est pas n'importe quelle personne qui ont parlé de ce quotidien masqué de la violence que subissaient les femmes. Ce sont deux femmes, dont l'une est politologue, n'est-ce pas, qui a parlé de grand-mère Kahl et de tout ce que ce récit cachait, finalement, ne voulait pas dire. Parce que, malgré tout, notre société, c'est une société de l'indicible, de ce qui ne se dit pas. Et le conte, il sert à ça. Il sert un paradoxe à dire sans dire. Et finalement, j'ai envie de proposer à vous une autre définition, justement, qui n'a pas les mots là-dedans. Qu'est-ce que ça, il est un conte? Un conte, finalement... C'est une prise de pouvoir en missouk. Une prise de pouvoir en missouk. C'est-à-dire, et c'est pour répondre à ça que à la jeunesse que l'a parlé tout à l'heure, ben le conte, finalement, il appartient à tout le monde. Or, il y a une croyance partagée qui a été largement diffusée, discutée cet après-midi. C'est la croyance que le conte, eh bien, il crée une ligne de partage, naturellement. Tout le monde est venu parler de ça très naturellement, spontanément, en fait. Le conte, c'est une histoire que les racontées par un raconteur. Personne n'a pris le temps de dire cela. Tout le monde a entretenu ce conte-là, cette idée-là. Mais un qui dit raconteur, il dit un l'écouteur. Donc finalement, le conte entretient une ligne de partage entre des gens qui racontent et des gens qui écoutent. Qui ça y écoute? Qui ça y écoute les contes? Nanemoun y croit que n'a plus personne y écoute les contes. Moi, m'y pense l'inverse. M'y pense qu'au contraire, les contes, c'est un bien commun qui n'appartient à personne et que personne ne peut s'approprier tout en faisant en sorte que tout le monde puisse en profiter. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est paradoxal, hein, parce que finalement, moi, j'ai l'impression que le conte qui consacre des performances d'oralité de quelques-uns, on l'a vu, hein, on l'a vu se manifester. Il y a des personnes derrière lesquelles on a du mal à passer quand ils racontent une affaire. Mais en même temps, il y a des enjeux derrière, parce que c'est un travail de raconter. Effectivement, c'est un travail de raconter. Il y a des travaux invisibles. Mais dira Pazot, qui ça y travaille le plus de manière invisible dans notre société. D'accord? Donc le conte, pour moi, il entretient une forme de paradoxe. C'est-à-dire que nous parle d'une affaire qui est censée être accessible, tout en faisant en sorte qu'il rende à lui inaccessible. Pourquoi? Parce que en disant Nena de raconteur, Nena des racontés et des l'écouteur, c'est en sociologie, il appelle ça des formes de subalternisation. Subalternisation de qui, de quoi? Entre autres de la jeunesse. Si nous calculons la moyenne d'âge de ça que l'a causé aujourd'hui, m'y laisse les trois petits points, m'y laisse les autres remplis, hein, parce qu'il faut m'y savoir. Donc, ça, c'est cette première forme de croyance qui était partagée et que je vous invite, camarades, à déconstruire. La deuxième fonction sociale que le conte remplit, c'est la fonction de « il pèse le doigt sur la bouche ». Chut, quand il commence un conte, il te rappelle, quand ma tétie, le meilleur conteur qu'elle avait, c'était Pépé. Pépé, il te raconte l'histoire bébête, Mémé, il te raconte l'histoire bon Dieu. Chacun avait sa fonction, finalement. Et avant de raconter un conte, qu'est-ce qui a été fait? Le double sens de ce que disait tout à l'heure Monsieur Mulla, empêche Marmaille ravagée. C'est pas pour rien que dans les sociétés révolutionnaires, la première chose que l'on déconstruit, ce sont les contes. Je vois des visages qui s'éclairent. Je crois que je vous parle, mesdames. Deuxième, autre croyance, je les développe. C'est difficile de faire une analyse sociologique à chaud alors que m'allait fatiguer Marmaille. Il m'a envie de rentrer voir mon Marmaille. La deuxième croyance, c'est que écrire les contes, c'est quelque part les sauver. Je répète, écrire les contes, c'est quelque part les sauver. Là, on vit, mais rappelle Azote à un chiffre, illettrisme à La Réunion, 21%. Bourdieu disait, quand on regarde une affaire, quand on regarde un acte, quand on regarde un phénomène social, c'est bien de décrire le phénomène social, mais c'est bien aussi de regarder qui ça, les évacuer d'office du fait social que nous les en train de regarder. Et quand on dit, pour sauver les comptes, il faut écrire Azote, qui ça les exclut tout de suite? C'est une question que m'y pose, mais laisse Azote répondre. Donc, mettre à l'écrit quelque chose qui naît de l'oralité, n'est-ce pas quelque part entretenir la désappropriation d'un bien commun? Naïmoun, que tout à l'heure, elle a dit, comment il fait pour ramener le conte dans la case? Mais le conte, il naît dans la case. À cause, il veut ramener une affaire, un endroit, où ça, il est déjà. Peut-être qu'il y a des formes de légitimation, d'autres formes d'oralité, que celles qui sont consacrées et que l'on consacre aujourd'hui. Donc finalement, et je vais conclure là-dessus, maladie azote, que vous n'allez pas rire à la fin. Hein? Tout se passe comme si le conte, finalement, procédait à une double dépolitisation. C'est quoi la dépolitisation? C'est au sens où on oublie les profondes inégalités qui structurent notre société. Les inégalités de genre, les inégalités de génération, d'âge, les inégalités... Il y a plein d'autres formes d'inégalités. Et la possession de l'écrit, la possession du savoir en est une dans notre société. Donc, une première forme de dépolitisation sur le fond. Sur le fond, certaines des femmes aujourd'hui en ont parlé, c'est-à-dire que le conte est une forme, entretient une forme d'euphémisation des souffrances des femmes. Et peut-être qu'il y a là des clés pour... Il y a là des clés, j'en suis persuadée, je suis profondément optimiste, il y a là des clés pour rendre le conte à celles qui les forment, qui les fabriquent. J'ai ici une playlist qui s'intitule « L'Odé à mon douleur ». Et c'est une playlist où il y a toutes les chansons créoles. Il y en a une, la première chanson créole que Nana dedans, c'est une chanson de la Zotti va connaître. « Ôté grand-mère, chante encore pour moi, tifle fané. Raconte à moi ton misère, dans le temps que tu n'avais point mangé. » Donc, la fonction des contes était de raconter la misère. Peut-être que la légitimité des contes, elle se situe là, dans le quotidien à raconter. Et c'est une façon peut-être de lutter contre la peur de perdre notre mémoire collective. Pourquoi confiner dans le rang de la mémoire quelque chose qui est finalement encore très vivant dans nos familles ? La deuxième forme de dépolitisation, le deuxième processus de dépolitisation procède de la forme, en mettant à l'écrit, qui comporte le risque d'écarter ceux et celles qui, pour plein de raisons sociales, ne peuvent pas y accéder. Il y a là donc un point de vigilance, un point de justice finalement pour entretenir la prise de pouvoir en Missouk. Peut-être qu'on devrait veiller, plutôt que de mettre à l'écrit, d'entretenir les espaces d'oralité équitablement partagés. Quand je suis arrivée tout à l'heure, ce matin, il y a longtemps, mais à cause avec un camarade que la parle à moins de Cuba. Et il paraît qu'à Cuba, c'est un territoire que la décolonise a lu. Les bâtiments patrimoniaux, coloniaux, remplissent aujourd'hui une autre mission, c'est-à-dire ils deviennent des lieux ouverts où l'on vient danser, chanter, apprendre à danser, chanter et raconter. Finalement, il y a quelque part là-dedans un peu de subversion, c'est-à-dire qu'on va entretenir quelque chose de vivant. Voilà, ce sera le mot de la fin. Conservons des espaces pour l'oralité équitablement partagés entre les générations et entre tous les groupes sociaux. Je vous remercie.
Merci donc à Marie Thiembo-Morel, témoin au même niveau que vous.